Mesdames et messieurs, en vos grades et qualités, je voudrais commencer cette cérémonie par évoquer la vie de Monsieur et Madame Sabot, Berthe et Raoul Sabot. La vie de Raoul Sabot, ce que l'on sait, c'est que Raoul Sabot était né à Berlac. Son épouse était de Villiers-le-Roux. Elle s'appelait Berthe Faïs. Et il l'avait épousée. Et ensemble, ils ont vécu à Villiers-le-Roux. Berthe était coiffeuse. Son mari, Raoul, vraisemblablement, était charpentier menuisier. Et Berthe et Raoul Sabot étaient des militants du Parti communiste français. Et ils avaient des liaisons avec tous ceux de l'environnement qui étaient du Parti communiste et qui s'appelaient et accepte d'organiser un groupe anti-nazi. En même temps, ils reçoivent tracts et journaux, accueillent dans leur maison des responsables du Front, qui n'est pas le Front National de maintenant, qui était la direction du Parti communiste français, comme par exemple Octave Rabat. En 1941, Raoul Sabot se voit confier la mission d'organiser des groupes de francs-tireurs, partisans. Le 22 février 1942, au matin, un homme se présente chez les époux Sabot et se dit envoyé de la direction du Parti communiste. Il possède le pass, sans doute une demi-page de catalogue. Malgré leur méfiance, ils trouvent l'homme qui se présente chez eux sale, mal rasé. Les Sabot l'accueillent pour prendre un bain, le coiffe, le rase. L'inconnu quitte les lieux dans la journée, à destination d'Angoulême. Le 22 février 1942, les brigades spéciales du commissaire David, renversées par des policiers charentais, au service du gouvernement de Vichy, viennent arrêter les époux Sabot. À Villiers-le-Roux, Augustin Marchand est arrêté le lendemain. Son frère Émile de Villiers-le-Roux, arrêté le surlendemain. Malgré une fouille minutieuse des lieux et qui dure 3 jours, rien n'est trouvé. Les policiers ne trouvent pas une certaine machine à écrire et d'autres documents compromettants, soigneusement cachés dans une ancienne crèche transformée en cage à lapins. Au cours de la même rafle, à Ruffec, d'autres membres du Parti communiste, dont Raoul Hédiard, est arrêté. Chez lui, les policiers de Pétain découvrent une liste portant les noms d'une cinquantaine de personnes de la région de Ruffec, amis personnels, résistants, distributeurs de journaux. Et évidemment, Il n'est pas prouvé que ces listes sont des listes politiques. Ah, Olivia prétend qu'il travaillait à une boucherie, que c'était des commandes. Et seul René Moulinier accepte de dire, sous la contrainte, que c'est les liaisons d'un nom qui est contribué sont des noms de résistants. Rappelons à ce moment-là que pour le gouvernement de Vichy, le nom de résistant n'existait pas. On dit des terroristes. À la suite, donc, Raoul et Berthe Sabou vont être transférés, remis, emmenés à Poitiers, transférés ensuite à Paris pour être livrés à l'occupant nazi. Et ils ont été emmenés donc en déportation en Allemagne. L'histoire pour Berthe et Raoul Savoureau, c'est que Berthe et Raoul Savoureau avaient un fils, Jacques, qui avait 9 ans. Après la déportation des époux Savoureau, qui ne sont jamais revenus, qui sont morts dans les camps, dans l'enfer des camps de concentration, jamais Jacques Savoureau n'a revu ses parents. Il a été élevé par la famille. Et l'autre jour, lorsque nous l'avons accompagné à sa dernière demeure, ses enfants étaient là et nous avons beaucoup pensé à Jacques, qui donc n'avait jamais revu ses parents. Et non, il n'a jamais eu de nouvelles d'eux. Et ça a été quelque chose qu'il a porté toute sa vie. Ses enfants étaient présents. L'autre jour, lorsque nous l'avons accompagné à sa dernière demeure, et ils m'ont affirmé que leur père les avait avertis de cette arrestation. C'est quelque chose pour nous qui nous avons connus. À l'heure actuelle, concernant l'occupation, il n'y a plus de témoins. Tous, à Villiers-le-Roux, maintenant, il ne reste plus personne qui est connu. Berthe et Raoul Sabou. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous tenons à les honorer. Sachant que quand même, ils furent emmenés, lorsqu'ils ont été arrêtés, à l'hôtel de ville de Ruffec, salle des mariages actuellement, pendant quelques jours. Berthe et Raoul Savoureau ont été torturés sans ménagement par la police française avant d'être transférés dans plusieurs prisons parisiennes au fort de Romainville. C'est leur compagnon communiste, Octave Normand, épouse Madeleine, après avoir volontairement quitté leur activité agricole, s'étaient réfugiés à Saint, eux aussi, seront arrêtés le 27 mars 42, directement au fort de Romainville, où retrouveront leurs camarades. À la mi-septembre 42, pour sanctionner les attentats survenus depuis la dernière fusillade massive, une nouvelle mi-administration allemande décide d'exister 116 nouveaux otages, 46 à Paris au Mont-Valérien, 70 à Bordeaux au camp de Sud. Les 46 otages furent fusillés au Mont-Valérien. Ils ont été choisis parmi les internés du fort de Romanie. 24 juillet 43, Berthe et Raoul Savoureau de Villiers-le-Roux sont embarqués pour un camp de concentration. C'était même le convoi, on le sait maintenant, de Marie-Claude Vaillant-Couturier. 230 femmes feront partie de ce voyage. Plus de 1500 hommes dont la destination sera différente. Ils seront embarqués comme du bétail dans des wagons à bestiaux à raison de 60 par wagon fermés, lombés. Ce voyage qui dura 4 jours, 5 nuits, sans boisson, sans nourriture, pas plus que de sanitaire, est tellement pénible pour les femmes. Elles sont arrivées à Auschwitz le soir. Elles passeront encore la nuit dans les wagons. Et ce n'est qu'au petit jour que les SS déplombent les wagons, ouvrent les portes et les font sortir à coups de crosse de fusil, à coups de bottes pour les conduire au camp de Birkenau, dans une dépendance qui était la dépendance du camp d'Auschwitz, dans une plaine immense qui au mois de janvier était neige et glacée. En arrivant au camp de Birkenau, toutes ces femmes ont chanté la Marseillaise, puis elles ont été immatriculées. Chaque personne déportée à l'époque n'avait plus de nom. On gravait sur le bras un numéro de série. Les déportés ne valent plus rien. Ils n'ont qu'un numéro. Et finalement, à 3h30 du matin, les hurlements des surveillants SS les réveillaient à coups de bourdin. Elles étaient chassées de leur grabin à partir de l'appel dehors dans la neige. À la sortie de la porte, il y a une grande roue qui tournait avec tout autour des gourdins et personne ne pouvait échapper au coup qu'elle pouvait recevoir par les femmes SS dans cette grande cour. C'est comme cela que Madeleine Normande de Radure grecque fut tuée, la tête cassée à coups de gourdin, le 22 février 1943. Berthe Savoureau disparut le 1er avril 1943. Tous ces faits ont été des déclarations d'une rescapée d'Auschwitz au tribunal militaire de Nuremberg, devant les bourreaux nazis d'Auschwitz. Henri Bandy, déporté au camp de Mauthausen, fut exterminé le 19 mai 1943. Raoul, l'époux de Berthe Savoureau, fut interné à la prison de santé comme otage et classé parmi les détenus à déporter dans un camp de catégorie 3. Et il apprend qu'il va partir dans un camp et il ne sait pas. Et il constitue un ultime noble témoignage de la vie de Ruben, de Raoul Savoureau. Donc voici la texte. « Chers parents, écrit-il, je suis à la veille du départ, peut-être demain ou après-demain, mais en tout cas, quelques jours, naturellement, destination inconnue. Depuis 7 mois, je suis considéré comme otage. Je m'attends à tout. Rien ne me surprendra. Le moral est exagéré. Jamais il ne planchera. C'est en toute tranquillité que je prendrai des décisions qui me seront appliquées. quelle qu'elle soit, le grand voyage ou la déportation, je les supporterai en vrai français. Cependant, d'après certains pays, je serai réellement, et ils disent là avant d'arriver, ce sera certainement pour la déportation. Sur cette dernière, il m'est impossible de vous donner le plus petit renseignement. J'en ignore la destination, les buts, les conséquences. J'appartiens à une catégorie pour laquelle on applique le secret le plus absolu. J'ai reçu votre colis et la totalité de son contenu. Il en faudrait un par personne et par semaine. Selon des nouvelles clandestines venant de l'extérieur, Berthe, ma femme, se trouverait quelque part en Allemagne. Pensons que ces deux époux ne se sont jamais revus. Peut-être vous serait-il possible, si la présence vous parvient, de lui donner des nouvelles. Chaque jour, et il a espoir, nous rapproche de la victoire et de la libération. Bonne santé, bon baiser à tous. J'embrasse fraternellement celui que je n'oublie pas, c'est-à-dire son fils. Hélas, Berthe Savoureau était déjà décédée. Raoul Savoureau est déporté en Autriche, où il décède le 2 août 1944. Aristide Gentil, de la chèvrerie, Gustave Normand, avait été fusillé au Mont Valérien le 2 octobre 1943. Seuls sont revenus Albert Hérault de Londigny, René Moulinier de Ruffec, Fernand Jean-Renaud de Saint-Martin-du-Clocher, qui décéda peu de temps après, suite aux maltraitances et aux tortures. Mais cela n'a pas été pensé à ceux qui sont restés dans les camps, les fosses communes, au centre qu'il a fallu abandonner en terre ennemie. Nous ne les oublions pas, nous ne les oublierons jamais. Ils s'étaient engagés dans la résistance dans les années 40-41 pour former des groupes de maquisards ne supportant pas le régime nazi. Ils étaient tous communistes. Il ne faut pas oublier non plus que d'autres patriotes charentais et bien d'autres ont été eux aussi arrêtés et conduits dans des camps de concentration. Ce sont devenus les héros de cette tragédie. Berthe Savoureau dans l'enfer d'Auschwitz-Birkenau décède le 1er avril 1943. Raoul Savoureau, mort le 2 août 1944 dans cet autre enfer, était Gusenau, commando de Mauthausen. Ce n'est que le 26 juin 1956 qu'un décret publié au journal officiel porte sa nomination dans l'ordre de la Légion d'honneur. Voilà l'histoire de Raoul et Berthe Savoureau et qui nous émeut, et nous qui en avons entendu parler, mais nous ne les connaissions pas. Mais quand on pense que c'est quelque chose que on doit honorer chaque année, ne pas oublier et transmettre toute cette histoire à toute la jeunesse de maintenant. Même si 84 ans après, ça peut paraître loin pour la jeunesse. Mais dans quel but? Il faut que notre jeunesse sache que il ne faut pas que par des événements extérieurs, dans le contexte actuel, on revienne à des idéologies si mortifères. Moi, je dis que, en tant que président de L'ANAC et les associations de l'ami de la résistance, on doit toujours ne pas abandonner de faire ces commémorations. Parce que personne ne sait si dans l'avenir, dans un avenir proche ou lointain, quelque chose de semblable ne pourrait pas se reproduire. Et moi je dis quand même, j'ose dire, vive la France, vive la République.